Alors, Amaury Cornu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste français du compositeur américain Moondog, dont tu as écrit la biographie et tu as aussi consacré un site internet entier sur ce compositeur. Donc tu t'investis énormément pour le mettre en valeur et tu as aussi créé un ensemble qui s'appelle Minizime, dans lequel tu joues avec d'autres musiciens certaines compositions de Moondog et parfois même des partitions un peu inédites. Alors peut-être pour commencer, une première question, comment tu as découvert ce compositeur Moondog? Qu'est-ce qui t'a amené à lui?
Alors on verra peut-être tout à l'heure que Moondog c'est un musicien qui a énormément vécu dans la rue. Et ce qui m'a amené à Moondog, c'est une rencontre d'un autre musicien français, pour le coup, que j'ai croisé dans la rue, avec qui j'ai cheminé complètement par hasard, qui m'a invité chez lui après notre rencontre. Et c'était une espèce de soirée, j'étais relativement jeune, j'avais à peine 20 ans. Et une soirée assez folle avec plein de gens qui venaient des quatre coins du monde, c'était bien avant le Covid. Et à un moment, la musique de Moondog a résonné dans les morceaux qui passaient, et ça m'a tout de suite assez interpellé. Au point que je demande qui était l'auteur de cette musique. Il m'a été répondu que c'était un mec qui s'appelait Moondog et que ça allait me plaire. Et quand je suis rentré chez moi pour faire la version résumée, enfin, j'ai tapé Moondog sur Google et j'ai écouté plusieurs morceaux assez différents des uns des autres et j'étais incapable de retrouver le Moondog que j'avais entendu à cette soirée. C'était un des albums des années 50 qui sont assez expérimentaux, assez avant-gardistes. Et quand j'ai réalisé que tous les morceaux auxquels j'avais accès là a été composé finalement par une seule et même personne qui était ce fameux Moondog et qu'il avait écrit autant de choses et qu'il semblait assez peu connu, il y avait quelque chose à faire. Donc effectivement le site internet dont tu as parlé, c'est vraiment le point de départ pour moi, d'essayer de concentrer en une seule et même ressource beaucoup d'informations et de documentation sur ce compositeur. Et c'est un peu de là que tout est parti.
Tu t'es peut-être rendu compte aussi qu'il y avait peu d'informations à son sujet
Oui, à fortiori en français, mais de manière générale, il y en avait assez peu, oui. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait un boulot qui était à faire, en tout cas, et c'est assez grisant quand on a 20 ans. Et en fait, c'est vrai que les biographies, il faut le dire avec des gros guillemets, mais disent de moi que je suis un musicien, mais c'est pas tant que ça le cas. Dans Minisim, je me suis retrouvé à faire de la musique, effectivement, mais un peu parce qu'il fallait légitimer ma présence sur scène aux côtés des musiciens. Mais c'est pas du tout le cas, en fait. Enfin, je suis pas musicien au sens académique, ni même au sens quasiment, enfin, dans tous les sens du terme. Je connais cette musique, et voilà, mais en fait, pour moi, c'était vraiment juste une passion de passeur, pour le coup, de mélomane, plus que de musicologue, mais sans être musicien en tant que tel.
Et donc, Moondog, en fait, son vrai nom, c'est Louis-Thomas Hardin. Donc, il est né en 1916 et décédé en 1999. Alors, peut-être une question aussi, pourquoi il a choisi de s'appeler Moondog ?
C'était un retour d'un voyage qu'il a fait dans les réserves indiennes. C'est quand il s'est installé à New York dans les années 40. Il est revenu à New York à la fin des années 40 de cette espèce de périple un peu initiatique où il a un temps voulu vivre avec les Amérindiens avant de se rendre compte que c'était pas possible. Et il est revenu avec ce nom de guerre qui est un hommage à un chien qu'il avait quand il était enfant. Et c'était vraiment son nom indien d'une certaine manière. Ça fait partie de toutes les singularités qui constituent cette espèce de géant, effectivement, qui est Moondog, qui ne va rien faire comme les autres. Il veut faire de la musique classique à la Jean-Sébastien Bach, mais il ne s'appelle pas Louis Hardin, il s'appelle Moondog. Oui. C'est déjà un point de départ, effectivement, qui va le marginaliser, et puis il va creuser ce genre de sillon tout au long de sa vie. On va sûrement en parler.
On va en parler aussi, justement. C'est un compositeur, j'allais venir, qui détonne par son allure,
oui.
Notamment vestimentaire, puisqu'il arbore un grand casque de viking et des vêtements un peu atypiques. Et aussi par son parcours de vie, puisque c'est un compositeur qui est devenu aveugle à 16 ans,
oui.
Ce qui est un événement assez marquant. Et il va choisir aussi de vivre dans la rue, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que, on peut revenir un petit peu sur cette période, justement? Pourquoi il a choisi
Ouais, il y a plusieurs choses qui vont se télescoper dans cette idée-là. Il y a effectivement une volonté, je pense, de se différencier, puis d'être dans les marges. Il y a quelque chose de très pragmatique qui est de sauver de l'argent en fait en ne le dépensant pas en frais d'hôtel pour pouvoir payer des copistes. Puisqu'il était aveugle, il composait en braille ou il écrivait en braille et ça devait être transposé ou alors il faisait des dictées musicales. Et c'est pareil, il y avait tout un travail d'édition et qui faisait qu'il était obligé d'être un peu indépendant. Et donc chaque dollar qui n'était pas utilisé dans une nuit d'hôtel pouvait servir à vivre. Il a vécu quand même effectivement dans des conditions très bohèmes pendant des années et à vrai dire même quand il a eu un début de succès commercial, puisqu'il a même connu le succès commercial officiel à la fin des années 60, il a continué de vivre comme ça dans des conditions qui ont qui l'ont à la fois énormément servi, puisqu'il a rencontré les jazzmen dont on parlera peut-être tout à l'heure, ou des producteurs, et donc il avait une espèce d'aura, et qui l'ont en même temps enfermé dans cette espèce de marginalité un peu frics, un peu singulière, qui ne l'a pas aidé à accéder à une espèce de statut de compositeur de musique classique contemporaine auquel il aspirait. Mais donc voilà, c'était un choix pragmatique, c'était aussi un écho aux Amérindiens qui vivaient de nomadisme et d'extérieur, et il a essayé de recréer ça dans les rues de New York, voilà sa manière aussi.
Et pourquoi une inspiration viking en particulier ?
Alors, le viking, enfin les vikings, il y a deux éléments. Il s'est imaginé des racines scandinaves, en l'occurrence, dans sa famille. Alors, j'ai fait sa généalogie, je suis remonté jusqu'en Angleterre, mais pas jusqu'en, enfin, dans les pays du nord de l'Europe. Mais surtout, en fait, c'est quelqu'un qui a perdu la vue à 16 ans, comme tu l'as dit, mais il a aussi perdu la foi à la même époque, en pensant que si Dieu était bienveillant, il n'aurait pas laissé cet événement arriver, et que s'il était à ce point-là tout puissant, il aurait fait machine arrière le temps de lui revoir la vue. Et en fait, quand il a commencé à vivre comme ça un peu dans les marges, il avait une barbe qui était assez brune à l'époque, des cheveux longs, il était vêtu de robe de bure avant d'avoir ce costume de viking. Et ce qui lui a valu énormément de comparaisons christiques. Quand on voit les photos, c'est assez troublant, effectivement. Il avait vraiment une espèce d'allure de moine, comme ça. Et finalement, comme il ne supportait pas ces comparaisons christiques, qui de mieux que les vikings pour faire un pied de nez à la chrétienté. Au-delà de la blague, il s'est aussi beaucoup intéressé à l'Edda poétique, les grandes mythologies scandinaves et nordiques qui vont guider son travail de composition et d'écriture de poèmes, notamment.
Et on l'a cité tout à l'heure, il était aveugle et il se servait justement de personnes pour l'assister. Qu'est-ce que ça impliquait globalement pour lui ? J'imagine que ça prenait beaucoup plus de temps aussi d'investissement d'écrire en braille.
Alors ça c'est une excellente question à me poser aujourd'hui, parce qu'il se trouve que je travaille là depuis quelques temps à l'idée d'éditer ces partitions qui n'ont jamais été éditées. Et je discutais avec quelqu'un qui a accès aux archives en Allemagne de Moondog et qui m'expliquait notamment que sur tout le travail symphonique de Moondog, il a composé 81 symphonies, ce qui est assez remarquable. Vu qu'il était aveugle et qu'il avait un espace et puis qu'il était pas mal seul dans ses moments de composition, il composait ses symphonies sur des papiers au format A5, tu vois, c'est une moitié de feuille A4, 21, 29, 7, donc c'est la moitié de ça, et il composait, mettons, de la mesure 1 à la mesure 16 pour un instrument, et ensuite il passait de la mesure 17 à, je sais pas, la mesure 33 ou un truc comme ça, et les symphonies sont très longues, elles contiennent énormément d'instruments, et il les morcelait sur des petits papiers, sur quelques minutes, quelques secondes de musique, il morcelait tout. Et ça nécessitait une capacité d'abstraction, en fait, et puis de projection mentale complètement dingue. C'était quelqu'un qui avait vraiment une espèce de palais mental assez fort. Il était capable, il avait tout en tête, et il avait développé assez vite vraiment une force de ce point de vue-là qui lui permettait effectivement de surpasser assez largement son handicap. Et c'est quelqu'un qui avait vraiment... Il savait très précisément où il allait quand il écrivait de la musique, qui était très prolifique, qui composait tous les jours à New York, et qui avait vraiment tout en tête. Ce qui fait que même quand il a traversé l'Atlantique, j'anticipe un peu, mais il va venir s'installer en Europe, il n'a quasiment pas eu besoin d'amener toutes ses partitions, même des choses qu'il avait composées 10 ans plus tôt, il se les rappelait, et puis il a pu les reproduire comme ça, à partir juste d'un souvenir, assez dingue.
Ouais, c'est impressionnant. Bah, surtout que les symphonies, pour le coup, c'est une superposition de plein d'instruments. Et
c'est ça. C'est après, on rentrera en musicologie, mais c'est tout en contrepoint. Donc ça, c'est régi par des règles hyper strictes pour le coup. Et alors, ça peut être à la fois une aide, j'imagine, mais l'idée de respecter cette règle, même quand on a une partie de basson qui démarre après des mesures et des mesures de silence, et de se dire, ah, tiens, oui, c'est vrai, j'ai cet instrument-là qui doit être là, alors qu'on a écrit. C'est assez dément comme travail.
Et sa musique, elle est souvent qualifiée d'inclassable, puisque ouais. C'est vrai que ça mêle différentes inspirations, à la fois le jazz afro-américain, mais aussi la musique amérindienne. Tu le citais, il a notamment vécu un peu avec les Amérindiens. Et aussi la musique classique, tu parlais de Bach, qu'il admirait, mais qu'il a aussi critiqué, hein, puisque à un moment donné, il a dit que... Alors j'ai une citation là. « Je suis sûre qu'il était conscient des nombreuses erreurs qui se trouvaient dans sa musique. Il les aurait certainement corrigées s'il avait eu le temps, mais il devait s'occuper de ses enfants et de sa femme.
Ouais. »
Donc il aurait dit ça de Bach.
De Bach.
Donc voilà, une inspiration classique. Et il incorpore aussi des bruits de la rue. C'est ouais. Ce que j'ai vu dans certains de ses morceaux. Et il favorise justement un rythme un peu atypique en 5 temps. Le Snake Rhythms. Mm. En quoi tout ça, ça a fait de lui quelqu'un d'un peu précurseur, avant-gardiste ? Et est-ce qu'à l'époque, il était compris aussi, respecté pour ça ?
Alors, ça fait de lui quelqu'un de précurseur, parce que c'est vraiment, pour le coup, quelqu'un qui, avant tout le monde, a fait du métissage musical, puisque c'est bien ça dont il s'agit, le fer de lance de son travail. De mélanger à ce point-là, dans la Symphonie du Nouveau Monde, Dvorak utilise des mélodies indiennes, enfin amérindiennes, pour faire de la musique classique, avant Moondog, mais... Il y a vraiment dans le cas de Moondog l'idée vraiment de construire toute son écriture musicale sur ce mélange d'influences hyper sincère pour le coup et qui en fait c'est même enfin il a fait du métissage sans vraiment chercher à le faire je pense pas sans avoir une volonté autre qu'artistique mais il a grandi dans les réserves indiennes donc il avait cette pulsation vitale qui l'a accompagné tout au long de sa vie il avait cette fascination pour Bach et puis effectivement il y a une forme de mégalomanie avec l'idée de l'élève qui dépasse le maître. Donc un énorme respect quand même avant tout de ça. Il s'est lié d'amitié avec énormément de jazzmen, donc il a ramené du swing, du groove dans sa musique. Il a vraiment la vocation d'écrire une musique classique au sens, enfin vraiment même pas contemporaine, une musique classique. Alors que par définition la musique classique n'existait plus, puisque le chant de la musique classique dans la fresque chronologique était passé. Et ce retour à la tonalité. Également, qui fait de sa musique quelque chose d'assez pop, d'immédiatement accessible, ce qui était quand même à contre-courant de la musique classique, enfin contemporaine, on va dire, de l'époque. Et donc il y a vraiment cette science du métissage musical qui fait que, plus effectivement les collages dont tu parles, qui fait qu'il est jamais loin de l'avant-garde en même temps, c'est vraiment quelqu'un qui a jamais choisi entre le savant et le populaire, et c'est ce qui me plaît beaucoup dans sa musique, enfin ce qui me guide dans ce travail, c'est que je suis pas un musicologue, mais je suis passionné de musique, je suis passionné de beaucoup de musique différente, et je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée en fait. Enfin, moi, grâce à Moondog, je me suis intéressé à la musique ancienne, aux musiques du Moyen-Âge, à la musique, au free jazz, à des formes de jazz hyper extrêmes, aux musiques dites minimalistes, contemporaines, alors que je viens vraiment de la pop musique pour le coup, enfin c'est mes premiers amours. Musicaux, c'est Pink Floyd, enfin, il faut dire vite que c'est de la pop musique, mais en tout cas des choses vraiment plus pop. Et il est vraiment à la croisée de tout ça, et c'est assez agréable de pouvoir. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'en 10 ans, je me suis jamais ennuyé. Quoi. C'est hyper varié. Et si jamais il y a un truc qui commence un peu à me gonfler, je sais que je peux prendre juste un chemin de traverse et puis arpenter une autre parcelle de son œuvre, monde.
Oui. Et donc tu disais tout de suite qu'il fréquentait beaucoup de jazzmen. Il a fréquenté aussi Steve Reich, Elvis Costello. Et également Janis Joplin, qui a fait une reprise, si je ne me trompe pas, d'un de ses morceaux. Il paraît assez bien perçu. Globalement, il y a même Andy Warhol qui a signé la pochette d'un de ses disques. Et puis toutes les icônes de la Beat Generation, Allen Ginsberg, William Burroughs, qui le fréquentaient aussi pas mal. Donc globalement, il était plutôt bien perçu à son époque. Est-ce que dans les sphères plus populaires, peut-être, il était connu? Alors, en dehors des sphères élitistes.
Ouais, c'était une icône, effectivement. C'était une icône des rues de New York, même de manière générale. Et pour, il y avait effectivement toute cette masse de gens que tu viens d'énumérer. C'est un name-dropping perpétuel à l'univers de Moondog. Après, il faut imaginer, pour quelque chose de vraiment un exemple parmi tant d'autres, du côté effectivement populaire du bonhomme, il y a un hôtel qui était assez connu, le nom m'échappe, à New York, qui plutôt que de donner son adresse, disait « on est situé en face de Moondog », puisqu'il avait vraiment un coin où il était là hyper régulièrement. Et effectivement, c'était vraiment quelqu'un de très populaire, qui passait à la radio, qui a été une des personnalités aussi, enfin, très photographiées à New York, mine de rien, et par des photographes, par Annie Leibovitz ou Diane Arbus, des photographes connus, mais par des badauds. Je récupère des photos aujourd'hui de gens qui me disent, mais en fait, mon grand-père avait pris cette photo de Moondog sans savoir que c'était un compositeur. Et c'était effectivement quelqu'un qui fascinait. Après, effectivement, il a sorti deux disques chez la Columbia, qui est le label de Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Miles Davis, et j'en passe, et Janis Joplin. Là, il a accédé effectivement à une sorte de notoriété, avec vraiment beaucoup d'articles de presse au sujet de son travail. Donc il est devenu autre chose que juste un espèce de clochard céleste, un peu singulier, mais malgré tout, le mal était un peu fait du côté... vraiment marginal du bonhomme, et donc c'était à la fois, encore une fois, c'est le revers de la médaille, ou en tout cas les deux tranchants d'une même épée. Ce qui a pu le servir a pu aussi le desservir, et il a fini par s'en rendre compte.
Et en plus d'être compositeur et cette icône-là aussi des rues de New York, il était aussi poète un petit peu.
Oui.
Et il a aussi créé des instruments de musique. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu justement, oui, de ses créations d'instruments
Carrément, bah, ça fait partie des autres éléments qui vont faire de sa musique quelque chose d'unique en fait. Il avait vraiment cette volonté de faire une œuvre qui ne ressemble à aucune autre. L'idée de mélanger des esthétiques musicales, c'est une façon de faire, c'est-à-dire de vraiment faire ce métissage dont je parlais, d'aboutir à, de fait, un résultat inédit. Et avoir des instruments qui n'appartiennent qu'à sa musique, c'est aussi, enfin, très concrètement, pour le coup, la trimba, notamment dans les enregistrements de Moondog, et la trimba tout court, même si elle existe que dans les enregistrements de Moondog, a une espèce de sonorité ultra reconnaissable. C'est un tube triangulaire avec une peau d'un côté, un trou, donc un évent de l'autre, avec une grosse cymbale qui fait résonner le son, et puis il y a une plus petite triangle à côté qui fait comme deux tomes de batterie finalement. C'est une espèce de mini batterie portative sur laquelle il frappait avec une maracas dans la main droite et une clave dans la main gauche. Et il y a vraiment cette idée de jouer des contretemps dans une espèce d'orchestre en fait à lui tout seul. Des fois on a assez régulièrement l'impression qu'il y a plusieurs musiciens en même temps. Alors des fois c'est vrai parce qu'il faisait beaucoup de... Ça a été un des pionniers aussi du re-recording, de l'overdubbing, de l'idée de s'enregistrer par-dessus lui-même, puisqu'il n'avait pas les moyens d'avoir des instrumentistes à ses côtés au tout début, dans ses premiers disques. Donc il y a vraiment cette... Mais il y a même des enregistrements où il est juste tout seul, c'est une prise unique, et on a l'impression qu'il y a 2-3 batteurs en même temps tellement c'est dense. Et ça, c'est assez cool. Et puis il y a des fois où effectivement il mélangeait lui-même ses propres instruments inventés. Il jouait de deux instruments en même temps. C'était un virtuose aussi de ce point de vue-là. Oui.
Et est-ce que je peux te demander quel est ton morceau peut-être favori, enfin, ton œuvre favorite de Moondog?
C'est la pire question. J'ai le droit à un seul morceau?
Non, tu peux en donner.
Je peux changer à chaque fois, cela dit, c'est ce que je devrais faire. Alors, moi, il y a un disque qui m'est hyper cher, c'est l'album New Sound for an Old Instrument qui sort en 79 en Europe. C'est un album avec quasiment que de l'orgue et justement un tout petit peu de percussion de temps en temps, un peu de trimba. Mais c'est un album qui m'est assez cher parce qu'il n'y a qu'un seul instrument, certes, mais c'est l'orgue, donc c'est quasiment un orchestre à lui tout seul. Et il y a vraiment l'idée de faire du neuf avec du vieux, c'est-à-dire il y a des compositions américaines qu'il va réamener en Europe et qu'il va réenregistrer, souvent avec un instrument différent parce qu'il n'avait pas accès à des orgues à l'époque. Et puis il y a des nouvelles compositions et j'aime bien parce que c'est vraiment une espèce de points de connexion, de jalons entre ces deux grandes périodes américaines et européennes. Et d'un côté, on a vraiment toutes ces deux histoires qui se mélangent. Toutes les tentatives de composition, enfin de compilation chez Moondog, je les trouve un peu ratées pour le coup. C'est tellement vaste, c'est 50 ans de musique il y a un point commun, évidemment, il y a un dénominateur commun qui fait qu'on sait que c'est du Moondog, mais ça passe tellement du coq à l'âne d'un morceau à l'autre. Que ça, pour moi ça rate, en tout cas ça me tire, chaque morceau me tire de l'écoute, et là il y a une cohérence malgré tout dans la diversité, donc cet album. Et puis il y a un morceau qui s'appelle le Log en Si qui est un morceau qui est sublime pour le coup dans cet album et qui est souvent celui que je cite comme un de mes préférés.
Depuis que ta biographie de Moondog est sortie aux éditions Le Mot et le Reste, il y a eu comme un espèce de renouveau, j'ai l'impression. On parle beaucoup de Moondog, beaucoup plus peut-être qu'avant, notamment à Toulouse, il y a une saison culturelle entièrement dédiée à cet artiste. Est-ce que tu as l'impression que malgré tout il reste méconnu ou il commence quand même à se démocratiser un petit peu aujourd'hui en tout cas?
Alors je pense qu'on en parle plus. La saison Moondog à Toulouse, c'était une super aventure. Pour le coup, j'étais conseiller artistique de cette saison et c'était vraiment une commande qui nous a permis de vraiment valorisé, et c'était un pari assez dingue fait par Hervé Bordier, qui est un ancien Rennais pour le coup, fondateur des Transmusicales de Rennes, de faire un focus à ce point-là. Enfin, on a fait plus de 30 événements autour de Moondog, et je ne sais pas quel compositeur vivant ou même mort a eu accès à ça, à vrai dire bien plus connu que Moondog lui-même. En fait, ce qui est intéressant, je tiens à rester assez modeste, mais il se passe beaucoup de choses en France, en fait. Et genre, sa musique est très, très peu jouée aux États-Unis, elle est très peu jouée en Allemagne, qui sont quand même ces deux pays, pour le coup, principaux. Et c'est vrai qu'en France, je suis là pour l'apporter, effectivement. Et oui, j'ai clairement l'impression, là, grâce à Autre Mesure, le festival qui m'invite pour la conférence et qui a invité François Mardi-Rossian, on parle plus de Moondog sur France Musique maintenant, plus facilement en tout cas. J'ai l'impression qu'il est un peu plus rentré dans le champ de ces personnalités comme ça, à la fois atypiques, mais dont on peut parler. C'est vrai qu'au début, c'était difficile pour moi, en tout cas, d'aller convaincre des gens d'en parler au-delà de ceux qui étaient convaincus d'avance, en fait, ça qui était assez rigolo. Pour le coup, il y avait un cercle, un bastion de fans absolus de la première heure, bien avant que je m'y intéresse moi. Mais donc c'est ça, en fait, d'ouvrir et de montrer que c'est pas si inaccessible que ça, et ça se fait petit à petit, effectivement, et je pense, oui, que les choses changent. Et puis c'est rigolo, parce qu'on se disait ça avec François Mardi-Rossian, le pianiste qui jouait du Moondog dans le cadre du festival. J'ai trouvé ça super, parce qu'il jouait du Moondog, du Alan Ovanes, qui est un compositeur sur lequel je travaille également, que j'aime beaucoup, et du Frédéric Lagneau, qui est un compositeur français très peu connu, et j'aime bien l'idée que c'est un récital avec trois compositeurs, et finalement, Moondog est quasiment le plus connu des trois. C'était un peu lui, la figure de proue de ce récital, et ça, c'est chouette, et ça va évoluer, j'espère, petit à petit, un peu dans ce sens-là. Oui.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à toi, avec plaisir.
À bientôt.